Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Incontestablement, Panama Papers a accéléré les travaux, mais qui avaient été quand même entamés depuis un certain nombre d'années. Parce qu'avant Panama Papers, vous avez eu SwissLeaks, vous avez LuxLeaks, et à chaque révélation, il y a un émoi qui est totalement légitime dans l'opinion publique, une mobilisation des journalistes, des ONG, des associations et des parlementaires qui sont de plus en plus motivés pour faire avancer les choses.
Emmanuel Morel, eurodéputé socialiste qui revient sur l'impact des Panama Papers. Il est vrai qu'en 3 ans, entre 2013 et 2016, 4 énormes fuites ont mis en lumière les dessous de l'évasion fiscale mondiale. Avant Panama Papers, l'opinion publique mondiale a découvert Offshore Leaks ou l'utilisation des sociétés écrans, SwissLeaks et ses petits secrets bancaires ou encore LuxLeaks et son optimisation fiscale des multinationales. Le procès se termine d'ailleurs ce mercredi. 2 lanceurs d'alerte. Certains journalistes sont devant la justice du Luxembourg. Ces révélations font-elles, au-delà de l'impact médiatique avancé, la lutte contre l'évasion fiscale ? C'est le débat de ce soir, bienvenue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Lucie Vatrinet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de plaidoyer au CCF des Terres Solidaires, coordinatrice de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires. Pierre-Alain Muet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député du Rhône, député du Parti Socialiste et par ailleurs vice-président de la Commission des Finances. Alors, des parlementaires de plus en plus motivés pour faire avancer les choses, poussés par une opinion publique, c'est ce que nous disait à l'instant Emmanuel Morel. Pierre-Alain Muet, est-ce que pour vous, parlementaires français, ces révélations sont aussi un moteur?
Alors, ça a accéléré énormément les choses. J'étais rapporteur d'une mission d'information en 2013 sur l'optimisation fiscale des grands groupes multinationaux. À l'époque, c'était essentiellement les ONG, CCFD ou autres qui se mobilisaient sur ce sujet, un petit peu les parlementaires quand il y avait des affaires comme Starbucks. La Commission européenne, pas du tout. Et les choses commençaient à prendre forme au G20 avec les chefs d'État qui ont décidé de s'occuper de ça. Et puis, c'est vrai que toutes les affaires qui ont explosé ont accéléré énormément les choses.
Alors pourquoi ? À cause de l'opinion publique, à cause de la mobilisation médiatique aussi sur un sujet, il est vrai, quand même difficile.
Je pense que l'opinion publique compte et le travail des ONG est tout à fait fondamental à cet égard. L'endroit où peut-être les choses sont allées le plus vite, et c'est bien que vous ayez écouté un eurodéputé, c'est en Europe. Parce que quand j'ai fait cette mission d'information, c'était en 2013. L'OCDE était mobilisée. Le G20 l'était. Mais l'Europe, c'était un sujet qui était inabordable. En Europe, il y a un principe, c'est que la fiscalité, ça dépend des États.
Oui,
je me souviens être allé rencontrer la Commission européenne et leur dire « Nous commençons à travailler en France, comme la plupart des pays, sur le projet de l'OCDE de lutter contre l'évasion fiscale des multinationales. » Et on m'a dit « Mais vous savez, chez nous, en Europe, c'est très compliqué. » Et avec LuxLeaks,
déclic.
Tout s'est accéléré.
Déclic. Lucie Vatrinet, est-ce que vous aussi, vous considérez que les scandales ont aidé les ONG à être mieux entendues comme des voix de la société civile importantes ?
Oui, définitivement, et c'est parfois un peu malheureux à dire parce qu'on aimerait bien, et on en parlera, mais que des personnes ne fassent pas les frais de ces scandales. Les lanceurs d'alerte à chaque fois risquent beaucoup pour dévoiler ces informations, donc on aimerait bien qu'on n'ait pas besoin de ça, mais force est de constater suite aux différents scandales que vous avez cités que oui, il y a un impact dans l'opinion publique, aussi dans un contexte budgétaire assez affolant, hein, de crise économique où du coup forcément la mise en parallèle entre les fraudeurs, que ce soit des particuliers dans le cas du scandale du SwissLeaks ou des Panama Papers, ou les entreprises dans le cas du scandale du LuxLeaks, là tout de suite ça met en évidence une injustice fondamentale, ça crée un émoi et
d'ailleurs,
ça nous
peut-être
sert
donner
vraiment
un chiffre. Est-ce qu'on a une idée de ce que représenterait une lutte efficace contre l'évasion fiscale pour la France ou pour l'Europe, par exemple?
Alors, les chiffres, c'est compliqué. Il y a des différentes manières d'évaluer fraude et évasion fiscale confondues. Donc, fraude, ce sont les pratiques illégales. L'évasion fiscale, cette optimisation agressive des entreprises. On parle de dizaines de milliards en France, centaines de milliards au niveau européen et milliers de milliards au niveau international. Ça me laisse l'occasion de rappeler aussi qu'on n'est pas les seuls, hein, ni en France, ni en Europe, à souffrir de ces pratiques-là. Au CCF des Terres Solidaires, on s'intéresse de près à ces pratiques parce que ça c'est aussi énormément d'argent. l'argent qui manque dans les caisses des États des pays du Sud. Donc juste pour revenir à votre question, oui, ces scandales font vraiment avancer les choses. Après, nous, on considère que les avancées sont pas suffisantes.
Mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
Ça ouvre une porte. Et après, toute l'idée, c'est de pas faire retomber le soufflet et de garder le pied dans la porte pour aller le plus loin possible.
Alors Pierre-Alain Muet, vous nous disiez tout à l'heure, oui, ça nous a permis de faire des choses, ça a aussi permis de réveiller l'Europe, mais avant la France, qu'est-ce que concrètement ces dernières années on a fait pour lutter contre l'évasion fiscale ?
Bon, on a créé une mission d'information j'ai fait une vingtaine de propositions, dont 10 législatives, elles ont toutes été votées, elles n'ont pas toutes été retenues par le Conseil constitutionnel. Il y a un débat qui était fortement soutenu par l'opinion, par des ONG, qui était de changer l'abus de droit, c'est-à-dire de pouvoir intervenir plus efficacement, juridiquement, contre ce qui n'est pas de la fraude fiscale, qui est l'optimisation fiscale, mais c'est ce qui est le plus choquant, parce que ça prétend respecter le droit, en fait, ça le contourne, et c'est des sommes considérables
qui disparaissent des caisses de l'État.
Qui disparaissent des caisses de tous les États européens. Et oui, ils ont tous été, ces 10 propositions ont été adoptées, le gouvernement a avancé aussi, mais c'est vrai que sur ce sujet, il faut avancer à l'échelle internationale. On a la chance que l'OCDE se soit saisi du sujet. Et l'OCDE en a fait une vraie bataille, qui s'appelle, d'un terme un peu technique, BEPS, c'est la lutte contre l'érosion des bases fiscales. Mais c'est en Europe qu'on peut faire et qu'on devrait faire avancer le plus les choses.
Alors, on va y revenir. J'ai bien compris que pour vous, le problème se situe en Europe. Je voudrais quand même vous demander, Lucie Vatrenet, il y a un texte qui arrive bientôt en France devant les parlementaires. C'est la fameuse loi Sapin 2. Et pour vous, le CCFD, elle est fondamentale en la matière.
Pour nous et nos alliés, oui, sur ces questions-là. Parce que nous, on pense qu'effectivement, ce problème est international, mais qu'on ne peut pas attendre tous les pays du monde pour avoir des mesures ambitieuses. Oui, l'OCDE s'est saisie du sujet, c'était bienvenu, ça faisait 100 ans que ces règles n'avaient pas été redéfinies. Après, nous, on pense qu'on peut aller plus loin et oui, il y a l'Union européenne et la France dans l'Union européenne joue un rôle important. Il ne faut pas négliger l'impact que peuvent avoir des décisions françaises en France sur l'Union européenne. Et à plusieurs reprises, notamment en 2013, en ce qui concerne des mesures de transparence sur les banques, la France a vraiment joué un rôle fondamental d'entraînement. En fait,
et
elle
là,
a voté
ce serait
une
plutôt
mesure
de transparence sur les entreprises
c'est
dans cette loi.
C'est exactement ça. Et nous, c'est en tout cas, pour nous, la loi transparence, elle couvre beaucoup de sujets extrêmement intéressants. Mais sur la question de la transparence des entreprises, on pense qu'on peut aller plus loin et notamment exiger des entreprises françaises la même chose que ce qu'on exige des banques françaises, ce qu'on a exigé des banques françaises en 2013, c'est-à-dire une véritable transparence dans tous les pays où elles sont présentes pour qu'on puisse enfin savoir si les entreprises payent leurs impôts là où elles ont une vraie activité.
Pierre-Alain Muet, j'imagine que là-dessus, sur le côté la France comme moteur, vous êtes d'accord, ça peut être une manière
Je
de lancer la machine européenne ?
Qu'on se donne les moyens d'entraîner les autres. Parce que c'est vraiment un combat qui ne peut pas se mener seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en pointe. C'est bien que la France, d'ailleurs, à l'origine, c'est la France, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Allemagne qui ont lancé au G20 cette idée de lutter contre l'optimisation fiscale. Bon, la lutte contre l'évasion fiscale, chaque pays le fait déjà, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, ça existe depuis longtemps. Mais cette lutte contre cette évasion qui est soi-disant légale et qui contourne l'esprit des lois dans tous les pays, ça suppose des accords internationaux. Je dis que l'Europe est bien armée parce que est à la fois bien armée et mal armée. Mal armée parce que la fiscalité, ça relève des États en Europe, donc c'est un sujet qui n'a jamais été traité. Bien armée parce que c'est le bon endroit pour faire les choses. Si on a une directive qui devrait arriver, qui devrait permettre la transparence, y compris publique, des entreprises. Eh bien, moi, je souhaite qu'elle arrive en Europe. Alors, on a voté un amendement. Le gouvernement nous a demandé d'attendre que les choses évoluent en Europe. Mais on a voté déjà à l'Assemblée nationale le principe d'une transparence publique. Je trouve qu'il ne faut jamais séparer le combat qu'on mène dans un pays avec ce qui se passe à l'échelle internationale. Parce que c'est vraiment un combat international.
Oui, allez-y, Lucie Vatrinet.
En même temps, sur cette directive, elle a été proposée il y a 2 semaines et elle est donc une directive qui proposerait une forme de transparence publique pour les entreprises au niveau européen. On l'attendait parce que c'est l'argument qui a été opposé aux députés quand ils ont, au niveau du débat de décembre dernier, on a dit on attend l'Europe. L'Europe vient de rendre publique sa proposition qui ne va vraiment pas assez loin parce qu'en gros, elle dit les entreprises devront rendre publiques des informations qu'au niveau de l'Union européenne et dans certains paradis fiscaux. Donc pour nous, ça va pas assez loin. Dans 2 semaines s'ouvrent les débats sur la loi transparence en France. Et du coup, pour nous, c'est vraiment l'occasion pour la France de reprendre un vrai rôle de leader sur les questions de transparence au niveau européen en disant, mais en fait, on doit imposer aux entreprises de publier des informations dans tous les pays où elles sont présentées, pas une sorte de reporting à trous tel qu'il est proposé aujourd'hui.
Alors Pierre-Alain Muet, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour essayer de revenir un petit peu à l'impact de chaque scandale concret, dans la foulée du scandale LuxLeaks, les ministres des Finances de l'Union européenne avaient adopté à l'unanimité un accord pour l'échange automatique d'informations sur les accords fiscaux qui ont été passés entre États et multinationales. Est-ce que ça allait dans le bon sens ? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ?
Ah bah, évidemment, ça va dans le bon sens. Il y a longtemps qu'on aurait dû avoir ceci. Il faut quand même avoir conscience que le scandale LuxLeaks a montré que des entreprises arrivaient à négocier avec le gouvernement luxembourgeois le fait qu'elles étaient présentes, elles accumulaient des profits considérables au Luxembourg et ils négociaient avec le fisc le fait que c'est une société transparente. J'ai examiné attentivement le cas d'Amazon. Amazon accumule tous ses profits au Luxembourg. Normalement, Amazon devrait payer l'impôt sur les sociétés au Luxembourg, au moins au Luxembourg. Il serait considérable. D'ailleurs, il est assez élevé. Mais l'accord, l'un des accords, ce qu'on appelle ces rescrits fiscaux, disait la société Amazon, qui est en fait une société de droit américain, elle n'a pas d'existence de fait, en tout cas fiscale, au Luxembourg. Vous imaginez une société qui accumule tous les profits dans un pays et le ministère des Finances du pays lui dit « Vous n'avez pas d'existence fiscale ?» Oui, LuxLeaks a fait avancer les choses. L'Europe n'aurait jamais bougé s'il n'y avait pas eu LuxLeaks. Et là, je peux vous dire que le fait qu'en plus, le président de la Commission était l'ancien ministre des Finances et ancien a plutôt accéléré les choses parce qu'il fallait qu'il efface cette image calamiteuse. Et je pense qu'enfin, l'Europe s'est saisie d'un sujet qu'elle aurait dû prendre quand le G20 et quand l'OCDE a lancé les choses. Mais vous savez, les ONG peuvent en témoigner. Il y a une époque où ce combat n'était mené pratiquement que par des citoyens, avec quelques députés qui s'y intéressaient.
Et quelques journalistes.
Aujourd'hui, heureusement, ouais, il y a une formidable mobilisation. Mais il faut aller le plus loin possible.
Et alors la grande question, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant, justement ? J'ai posé la question tout à l'heure à Emmanuel Morel, on l'écoute.
Ce qui bouge pas, c'est les États membres, quand ils se réunissent en conseil et qu'on leur demande de prendre des mesures radicales. Un exemple parmi d'autres, aujourd'hui vous avez une compétition fiscale féroce entre un certain nombre d'États membres. Ils baissent leur impôt sur les sociétés de façon à ce que les grandes entreprises s'installent chez eux. Ils payent très peu d'impôts sur les sociétés, c'est un manque à gagner considérable pour les finances publiques des autres États membres. Le problème, c'est que la fiscalité s'est décidée à l'unanimité. Or, vous avez des États qui sont pas des paradis fiscaux stricto sensu, à quelques exceptions près, mais en tout cas qui bloquent parce qu'ils veulent pas de cette harmonisation fiscale minimale. Mais ça n'est pas l'Union européenne qui est en cause, c'est bien un certain nombre d'États membres qui veulent pas qu'on avance.
Un certain nombre d'États membres, Luxembourg, Irlande, Grande-Bretagne, qui ne veulent pas que ça avance, nous disait donc l'eurodéputé Emmanuel Morel. Vous faites le même diagnostic, Lucie Vatrinet, c'est un problème de motivation politique ?
Oui, et c'est un problème de motivation politique et de statut de l'Union européenne. Enfin, Monsieur Morel a bien raison de rappeler que la fiscalité, c'est l'unanimité des États. La transparence, non. C'est pour ça qu'on avance un peu plus sur ces questions-là. Là, on a besoin que d'une majorité qualifiée. Et donc, c'est peut-être aussi le moment de se poser la question de est-ce que oui ou non la fiscalité doit rester une question où tous les États doivent être d'accord.
Donc, revoir les traités en la matière.
Oui, moi je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se poser cette question-là, parce que là, il y a vraiment urgence à agir au niveau européen. Et la deuxième chose, c'est que, et pointer du doigt aussi, cette espèce de dichotomie, d'ambivalence dans laquelle chaque État se retrouve, en disant, oui, d'un côté, on veut récupérer des bases fiscales, et de l'autre, on aimerait bien pouvoir continuer à attirer des entreprises sur nos territoires. Et là, vous avez le Luxembourg, l'Irlande, et même le Royaume-Uni, et même la France, dans une certaine mesure, où on se dit, mais on va pas non plus complètement se tirer une balle dans le pied. Et du coup, on a cette espèce de double de dichotomie dans laquelle les États se retrouvent et qui freine aussi la lutte. Donc il y a vraiment un enjeu à ce que à ce qu'il y ait une mobilisation qui soit constante et de plus en plus forte, des traitements médiatiques toujours d'ailleurs qui sont de plus en plus en pointe, et des parlementaires toujours motivés pour que on essaye de faire passer l'intérêt général avant, en fait.
Pierre-Alain Muet, vous voulez réagir?
Oui, quand je dis c'est important de le faire à l'échelle de l'Europe, parce que nous avons constitué un grand marché, nous avons constitué une union monétaire. Si nous avions un budget de cette union monétaire avec des ressources propres, la ressource propre naturelle, ce serait une petite partie de l'impôt sur les sociétés, comme ça existe partout. Et on aurait été obligé d'harmoniser les bases de l'impôt sur les sociétés, parce que cette optimisation fiscale, elle repose sur le fait que des tas de pays ont des dispositifs qui permettent de ne pas payer d'impôts dans tel, on appelle ça des niches fiscales. Et les sociétés multinationales, elles ont des batteries d'avocats qui sont tout à fait capables de vous construire un schéma où vous ne payez aucun impôt dans aucun pays. Donc la vraie question en Europe, c'est d'avancer sur ce sujet. Et moi, ce que j'apprécie dans le travail qu'a fait le Parlement européen, et notamment Alain Lamassoure, qui préside cette mission d'information sur l'optimisation, c'est qu'il a associé, il s'est dit sur un sujet comme ça, si j'associe pas les pays, les parlements nationaux, j'avancerai pas. Il a associé les parlements nationaux et les propositions, enfin, sur ces sujets ont avancé. Je citais les rencontres que j'avais en Europe il y a 3 ans quand je faisais ma mission d'information. Le monde là-dessus a complètement changé. Pas le monde, mais l'Europe.
Oui, alors justement, j'allais embrayer sur le monde. Le G20, vous le disiez, a été, s'était saisi à partir de 2009 de cette question. Je vais poser une question peut-être un petit peu facile, mais le G20 avait dit qu'il fallait établir une liste noire des paradis fiscaux. On a des scandales comme Panama Papers, et en fait, on n'a même pas les moyens de sanctionner le Panama. Est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'on peut répondre à l'opinion publique quand il se passe ce genre de choses, Lucie Vatrinet?
Alors, le problème des listes, en fait, c'est que, enfin, nous, ONG, on pense que c'est pas la bonne solution, parce qu'en fait, une liste qui est construite au niveau du G20 ou d'État est forcément à trous. C'est-à-dire que c'est forcément politique et qu'on n'aura jamais, sur une liste du G20, des paradis fiscaux particulièrement nocifs, comme le Delaware aux États-Unis ou la City de Londres, on les aura jamais. Et même au niveau européen, on a le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, on ne les aura pas sur une liste.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, du coup, il faut permettre soit, enfin, ça dépend. Il y a 2 problèmes. Donc, la fraude fiscale, l'échange automatique d'informations entre les pays, c'est une bonne chose. Ça arrive. Il faut que tous les pays soient concernés. Et d'autres, sur les multinationales, il faut une transparence sur leurs activités dans tous les pays. Il faut imposer aux acteurs, en fait. Il faut travailler sur les utilisateurs des paradis fiscaux et pas sur une liste qui est forcément lacunaire.
Mais alors, concrètement, Pierre-Alain...
Non, une liste, c'est utile pour faire pression sur des pays. Mmh. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est utilisée. La France a une liste... L'OCDE en avait une, ils en sont sortis. C'est une façon de faire pression sur des pays pour qu'ils acceptent de donner des informations. Donc les pays qui étaient sur la liste de la France ont fini par dire « on accepte de faire un échange d'informations automatique » et du coup ils sont sortis de la liste. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus des paradis fiscaux, mais ça veut dire qu'ils ont au moins avancé. Donc l'intérêt des listes, c'est ça.
C'est de faire pression.
Ceci
en fait,
étant, on sait très bien que par construction, aucun pays européen ne peut être un paradis fiscal. Alors que, comme je l'ai souvent dit et écrit, les paradis fiscaux, ils sont au cœur de l'Europe. Il n'y a pas besoin d'aller dans un paradis fiscal, une île, pour échapper à l'impôt. L'exemple d'Amazon est typique. Vous utilisez tous les défauts des fiscalités européennes et vous ne payez aucun impôt dans aucun pays.
Est-ce que symboliquement, on ne pourrait pas dire, il ne nous reste plus que quelques secondes, mais on met en place, je ne sais pas, un embargo économique, un embargo financier sur certains pays pour essayer de faire bouger les choses par la force de l'économie?
Ça, on pourrait interdire, par exemple, aux banques d'avoir des relations avec des pays qui proposent des sociétés écrans. Mais alors, ça veut dire, là, on parle du Luxembourg, par exemple. Mais, enfin, on peut, mais
après, marges de manœuvre.
Nous, on pense vraiment que, oui, il y a des marges de manœuvre, mais vraiment, il faut pointer les utilisateurs de ces territoires. Pour moi, c'est vraiment ça qui est extrêmement important. Et je pense que comme ça, on peut avancer.
Quand j'ai
auditionné des groupes, comme je cite la Société Générale, ils m'ont affirmé, nous avons pris le principe de ne plus intervenir dans les paradis fiscaux. Mais pour leurs clients, ils continuent à le faire. Donc il y a besoin de pression forte. Et je crois qu'il faut continuer cette mobilisation qui a quand même bien avancé.
Ce sera le mot de la fin. Il est positif. Merci beaucoup à nos deux invités. Lucie Vatrinet, chargée de plaidoyer au CCF des Terres Solidaires. Pierre-Alain Muet, député du Rhône, vice-président de la Commission des Finances. Emmanuel Morel, qui était à Bruxelles, eurodéputé socialiste. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vanner. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI. Bonne soirée.